Il sera la vidéo pour la prochaine Coupe du monde de football au Brésil l'an prochain. La ligne de but. Le système a déjà été testé l'an dernier lors de la Coupe du monde des clubs. L'objectif, selon la FIFA, est d'utiliser cette technologie dite ligne de but en soutien des arbitres et d'installer un système dans tous les stades.
France 5. Une certaine vision de la France et une certaine interprétation du conflit israélo-palestinien. Caroline Fourest analyse les idées des enragés de l'identité et des naufragés de Sion dans deux documents d'un samedi. Les taux extrêmes, ce soir à 20h35 sur France 5.
France Culture présente France Culture Forum, l'année vue par les sciences. Samedi 23 février de 9h à 18h30 dans le Grand Amphi de la Sorbonne à Paris, 5 tables rondes avec notamment Jean-Claude Amezen, Patrick Baudry, Étienne Klein, Corinne Lepage, Jacques Testard et en clôture, une leçon prononcée par Serge Haroche, prix Nobel de physique 2012. Entrée libre et gratuite, tout savoir franceculture.fr. France Culture, une radio de Radio France.
France Inter.
C'est Daniel Mermet là-bas si j'y suis.
Bonjour Daniel et toute l'équipe. Juste pour saluer la victoire de Rafael Correa en Équateur avec 56 ou 58% des voix, donc il passe au premier tour. Depuis ce matin, j'écoute France Inter et même dans le journal de 14h qui s'intitule « Toute l'info », on n'a pas la nouvelle de la victoire écrasante de notre camarade Rafael qui dit des choses très belles dans ses discours et en plus une qui me plaît beaucoup. Ils n'arriveront pas à nous couper l'espoir. Victoria siempre, compañeros.
Une petite réaction à propos du message de l'auditeur qui considère que si ton invité qui ne voit pas des musulmans intégristes partout, c'est qu'il habite forcément le 16e. Moi, j'habite pas le 16e, j'habite en Seine-Saint-Denis, à peine 100 mètres d'une immense cité. Et depuis 12 ans que j'habite là, j'ai vu deux femmes en burqa à un arrêt de bus et deux hommes habillés en djellaba. Et d'autre part, au niveau de la sécurité, tous les soirs, quasiment tous les soirs, je rentre à minuit, 1h, 2h, parfois 3h du matin chez moi, à pied, en traversant justement cette cité. Il ne m'est jamais rien arrivé d'autre que de me faire taper quelques clopes par quelques jeunes qui traînaient là, et de façon très polie, très gentille, avec « bonjour monsieur », et « merci monsieur », et « au revoir monsieur », et « bonne soirée monsieur ». Donc, pour l'instant, ça pose pas trop de problèmes, et même quand on habite en Seine-Saint-Denis, on n'arrive à pas trop en souffrir.
À propos de l'émission d'hier, il m'est revenu une phrase de Bertolt Brecht où il dit « Il y a plusieurs façons de tuer un homme, d'envoyer à la guerre, l'affamer ou le priver de son travail, le chômage. » Donc, tous ces événements là illustrent assez bien cette phrase. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que les gens qui font grève, comme les ouvriers de PSA, sont capables de lutter pour garder cet emploi, pénible soit-il bien souvent, parce que le chômage, c'est quand même un désespoir humain.
Bonjour à tous. À propos de ce père courageux, obligé pour être entendu de risquer sa vie afin d'obtenir le droit d'aimer son enfant de temps en temps, j'aimerais constater, moi, que le matriarcat vénal enclenché de la vérité. Cet homme aime son enfant avec son cœur et il le prouve. Quant à vous, madame la maman, vous avez donné naissance à un enfant. Il y a eu forcément un moment de votre vie où vous avez peut-être aimé le père de cet enfant. S'il vous plaît, madame, réfléchissez.
Oui, je m'appelle Améziane de Clichy et j'appelle pour vous parler de la détresse des pères qui sont victimes de leurs enfants et quelle détresse. Parce que, en même temps, je rebondis sur le sujet du jour, sur la mort de Jamel. Je me dis qu'on vit dans un monde complètement aseptisé où on ne tient pas compte de la misère, je dirais de la souffrance des pères qui ne voient pas leurs enfants. Voilà, c'est juste une petite note comme ça que j'envoie et que je me permets de diffuser. J'espère que les auditeurs comprendront. C'est très triste de ne pas voir mes enfants. Et quelques femmes aussi, n'oublions pas, il y a aussi des femmes qui n'ont pas leurs enfants. Merci, à bientôt.
Ah, beaucoup d'émotions encore, hein, dans le, répondeur de la base Suzy Suisse sur le sujet d'hier. À Nantes, vous avez reçu un message, et notamment, vous l'entendez, sur cette chose étonnante quand même, ce père dans cette grue jaune, et qui est redescendu, comme vous le savez. Et il y a des choses un peu bizarres dans le comportement de ce personnage, et notamment les déclarations qu'il a faites lorsqu'il a rejoint les journalistes sur le haut sol. Ces bonnes femmes qui nous gouvernent se foutent toujours de la gueule des papas. Bon, un peu agressif quand même envers la garde des Sceaux qui s'est montrée plutôt conciliante, assez étonnant. Et puis, on a une conversation avec un documentariste qui s'appelle Patrick Jean. Et Patrick Jean a produit un documentaire qui s'intitule « La domination masculine ». Et dans ce documentaire, il s'est intéressé au masculinisme. J'avoue que je n'avais jamais entendu ce mot jusque-là. Et dans ce documentaire, Patrick Jean nous montre le masculinisme, donc, au Canada, au Québec plus particulièrement, un mouvement, un réseau, qui s'oppose au féminisme, avec des valeurs, des buts, des arrière-pensées un peu étonnantes et un peu qui peuvent être inquiétantes à certains égards. Il faut savoir que Patrick Jean, qui est un très bon documentariste, s'intéresse beaucoup aux questions concernant les femmes, le féminisme. C'est un de ceux qui luttent pour l'abolition de la prostitution. Un cinéaste engagé et qui s'est attaqué, on peut le dire attaqué, au masculinisme. Et qui a, pour lui, ce qui s'est passé là, eh bien, relève de ses réseaux et de ses convictions, on ne va pas dire idéologie, mais enfin convictions de ceux qui militent dans ce masculinisme. Alors, sans doute beaucoup plus présent aux États-Unis et surtout au Canada que chez nous, mais voilà ce que nous a dit quelques instants à ce sujet.
En fait, plus précisément, j'ai même infiltré des mouvements masculinistes en me faisant passer pour l'un d'entre eux, pour un militant français masculiniste. Alors, ce que je reconnais, eh bien, en fait, c'est qu'on reconnaît même les images. C'est-à-dire que ce qu'on a vu à Montréal il y a quelques années, les images correspondent point par point à ce qu'on a vu sur les grues avec ce monsieur, le calicot, un des deux avait des ballons, les téléphones portables pour parler à la presse, le V de la victoire, et puis les déclarations. Me faisant passer pour l'un d'entre eux quand ils m'ont raconté leur stratégie, c'est que la question des pères, ça ne les intéresse pas tellement. C'est une vitrine, c'est une façade acceptable pour les médias et socialement pour un combat qui est beaucoup plus large, qui est le combat des hommes. Alors c'est le masculinisme, ce sont des hommes qui ne supportent pas l'idée d'égalité entre les femmes et les hommes et qui, pour le dire très brièvement, aimeraient revenir à une société de nos grands-parents, c'est-à-dire où l'homme est, ils le disent en toutes lettres, hein, où l'homme est le chef de famille dans la société. Donc on a bien vu hier que monsieur est descendu de sa grue, que les femmes ministres, ils ne supportent pas. Alors, ils sont souvent très homophobes. Si on va sur les sites de ces gens, on voit que, d'ailleurs, ils sont très opposés au mariage pour tous. Et il y a souvent aussi des connotations un peu racistes chez certains d'entre eux. Pour une partie d'entre eux, ça peut aller jusqu'à la défense de la pédophilie, qui serait une... Oui, absolument. Qui serait une pulsion naturelle chez les hommes et qui, après tout, serait pas si grave et qu'il faudrait pas condamner. Voilà. Vous avez tout un livre de la défense des droits et des privilèges des hommes contre les femmes et surtout, évidemment, contre les féministes qu'ils ont en horreur et qu'ils appellent des féminazis.
Patrick Jean, vous n'êtes pas en train de nous décrire un grand complot?
Ah mais alors si tous les combats politiques sont des complots, c'est un complot. Mais alors moi je suis un comploteur aussi parce que je mène des combats politiques. Non, mais si vous allez sur leur site, il n'y a rien de caché, il n'y a rien de complot à dos. Ils le disent en toutes lettres. Moi, ils m'ont dit des horreurs devant la caméra. Ils sont très fiers de dire qu'ils mènent le combat pour défendre les droits des hommes. Celui qui a conquis, qui a inventé, que la femme n'est que subalterne. Ils le disent en toutes lettres, hein, c'est pas du tout caché. Il ne faut pas se mentir, parmi les fondateurs de ce mouvement en France, il y en a quelques-uns, je crois qu'il y en a encore deux qui sont en prison, parce qu'ils avaient enlevé une maman qui était l'ex-compagne l'un d'entre eux, pour la flinguer, parce qu'ils estimaient que c'était injuste qu'elle ait plus de droits de garde sur les enfants que le papa. Donc ce sont des types qui vont jusqu'à des actes de violence physique. Mais en tout cas, la violence verbale, on l'a entendu hier quand le monsieur est descendu de sa grue, je pense que...
Patrick Jean, Pourquoi est-ce qu'on n'a pas découvert ça plus tôt en France? Il semblerait que ce soit le papier que vous avez fait pour lemonde.fr hier qui est soudain et fait prendre conscience de l'existence de ce masculinisme.
Je peux vous répondre de deux manières. La manière polie serait de dire parce que le phénomène n'est pas encore très connu en France, parce qu'ils agissent en sous-marin, etc. La manière moins polie serait de dire parce que les journalistes n'ont pas fait leur boulot. Parce que tous les jours, les télévisions d'infos ont continué, etc. De les voir sur leur site internet ce qui était dit et écrit, je pense qu'ils auraient pris un peu plus de distance parce qu'ils se seraient rendu compte que c'était peut-être pas tout à fait ce qui était vanté par ces messieurs. Le gouvernement, de la même manière, a voulu réagir de manière très émotionnelle. Ah, c'est pour papa, on va les recevoir. Et puis on se rend compte qu'en fait, on reçoit un type qui est dans des associations qui défendent un type qui est en haut de sa grue, qui est quand même un délinquant, qui a enlevé à deux reprises un enfant, dont une fois avec violence pendant près de 3 mois, et qui s'étonne que la justice ne lui confie pas. C'est très bien qu'il va nouveau l'enlever. Donc voilà, mais c'est sur ce sujet-là, comme beaucoup d'autres sujets, malheureusement, on réagit trop vite et puis on dit des bêtises.
Ok, ben je vous remercie. Bon, nous voilà quelques informations. Merci beaucoup, Patrick Jean.
Au plaisir.
Voilà quelques puces à l'oreille. On en saura plus, évidemment, dans les jours qui viennent, les temps qui viennent, puisque il y a un projet de loi. La retraite de ce monsieur sur cette grue précède de quelques jours une manifestation pour les droits des pères organisée le 20 février à Nantes pour les 6 ans et demi de mon fils dit Serge, qui a choisi la date en accord avec la jeune association SVP Papa. Donc on verra s'il s'agit qu'est-ce que c'est que ce masculinisme et qui devient. Ce qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, c'est tout à fait différent, c'est gratuit. Voilà, nous, on veut que la vie soit gratuite. Et on a commencé, avec Antoine Chao, à aller voir à Aubagne. Vous voyez où c'est Aubagne, hein, c'est pas très loin de Marseille. Où là, ils ont commencé à rendre la vie gratuite, à commencer par le transport. Les transports en commun sont gratuits dans cette ville depuis un certain temps. Une expérience qui est intéressante parce que, évidemment, comme on est très très malin là-bas, j'y suis, hein, vous en avez la preuve quotidiennement, on s'est dit, mais alors attends, dis donc, si c'est gratuit, qui paye? Voilà. Et alors, on a dit, Antoine, tu vas aller voir à Aubagne, qui paye quand c'est gratuit? C'est très intéressant comme sujet parce que on se dit, mais alors attends, ça c'est gratuit, ça on paye, ça c'est gratuit. Par exemple, actuellement, vous ne payez pas pour nous écouter. Voilà, c'est gratuit. Mais qui paye? Ben c'est vous. Moi aussi d'ailleurs, je paye ma redevance. C'est la redevance qui fait que la radio c'est gratuit. En fait, c'est pas gratuit, on paye, mais on a l'impression que c'est gratuit. Alors, il y a des choses qu'on trouve normales. De payer des choses dont on trouve normal qu'elles soient gratuites, rouler sur une route, sur une départementale, et ben c'est gratuit. Et ben non, qui paye? Google, par exemple, vous appuyez sur ça c'est formidable, parce que c'est bien, Internet, tout ça c'est gratuit. Pas vraiment. Et là, qui paye? Et comment ça fonctionne? Et ces répartitions entre le gratuit et le payant, ben c'est des idées. C'est des projets, c'est des conceptions qu'on pourrait appeler, baptiser d'un gros mot que vous connaissez si vous fréquentez quotidiennement, c'est le mot politique. C'est de la politique, c'est ce qu'on va faire jusqu'à 7 ans. On va voir quelques-uns parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Je suis en train d'écouter l'émission qui se passe à Nantes, c'est lundi. Et moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui travaille à Pôle emploi. Et nous en avons discuté du cas de ce Jamal. Et elle me dit que, de toute façon, les employés de Pôle emploi n'ont aucun pouvoir puisque toutes les décisions sont prises par un logiciel. Donner des coordonnées et le logiciel répond oui, non, mort ou grâce. C'est absolument atroce. En fait, les employés de Pôle emploi sont désespérés. Ils sont harcelés par des cadres qui eux-mêmes sont harcelés par leur employeur et eux aussi sont gérés par des logiciels acquis dans je ne sais quel pays, dans je ne sais quel cerveau, etc. dans une société folle.
Bonjour, Gabriel de la Martinique, oui, du 97-2. Les Français sont communautaires, on parle de communautarisme, mais lorsque vous voyez les Français à l'étranger, ils sont toujours regroupés entre eux. Alors tout le monde préfère dire, oui, c'est la faute à l'étranger. Je dis l'évolution, ce ne sont pas que des lois. L'évolution, elle est d'abord dans la tête. Et en se regardant un peu plus et en ayant un contact avec l'autre. Ok, alors c'est ce que j'avais à dire.
Ligne 1, bus gratuit. Et comment ça se passe dans le bus? Alors on rentre, il n'y a plus besoin de tickets, il n'y a besoin même pas de carte,
non,
rien
non,
du tout.
Vous rentrez, vous dites bonjour au chauffeur, c'est ce qu'on demande maintenant. Moi ouais, parce que j'habite Cuges, c'est un petit village. Pour tous mes frères, je le représente. Ouais, c'est un petit village. Après le
Vous vous souvenez quand il fallait payer?
Je sais pas, mais je crois que ça fait 3 ans. Ouais. C'était ouais, aux environs de 2 euros. Voilà.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis avec Antoine Chao. Vous vous souvenez quand il fallait payer?
Au bagne, boulevard Jean Jaurès, le slogan à Au bagne, c'est « Ce qui nous rapproche nous mène loin ». Alors, à Au bagne, les transports sont gratuits, mais aussi la voirie. Je vous en prie, la voirie aussi, hein, et, enfin, est gratuite quand on dit gratuit. Donc là, il y a un cantonnier au jet d'eau. Ce cantonnier passe le jet d'eau, mais c'est la collectivité qui paye. Et ben voilà, les transports aussi maintenant sont payés en intégralité par la collectivité. Un brin de convivialité à la façon dont l'entendait certainement Ivan Illich pour une société conviviale qui repose sur des contrats sociaux qui garantissent à chacun l'accès le plus large et le plus libre aux outils de la communauté. Liberté, égalité, gratuité. Les transports, c'est pas gratuit, c'est la collectivité qui paye.
Grand âge.
Gratos, mais Kirac, hein, c'est gratos. Qui Kirac? On le disait, hein, là, on a coupé pour Ado. C'est gratos, c'est gratos, vous pouvez l'écouter tant que vous voulez, sauf que sur l'impôt que vous payez chaque année, que nous payons chaque année, la redevance, il y a une part qui va au financement de Radio France. Et voilà, et avec ça, eh bien, Radio France emploie 4500 personnes à peu près, et quotidiennement informe, distrait, et surprend souvent environ 12 à 13 millions de Français. Oui, vous êtes 12 à 13 millions à vous porter chaque jour à l'écoute d'une des radios de Radio France, tout ça avec votre petite minuscule petite redevance annuelle. Voilà comment c'est gratuit. La gratuité de quoi donc on pourrait causer? Oui, j'ai dit, une route, on serait... Oui, il y a des péages sur certaines routes, mais enfin, la plupart des routes sont dépourvues de péages. On marche dans la rue, normalement, il viendrait à personne à l'idée de vous faire payer pour entrer dans une rue. Or, il faut l'entretenir, cette rue, vous avez peut-être remarqué. Il y a des cantonniers, il y a tout un équipement qui est là et qui a été payé par quelqu'un. Il se pourrait bien que ce soit les mêmes que ceux qui ont payé la redevance. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être indirect, ce financement. est gratuit. Absolument pas. C'est la pub qui paye ce journal. Et qui est-ce qui paye la pub? C'est vous. Quand vous achetez un produit, vous payez la pub qui vous a conduit à acheter le produit. Encore une fois, c'est toujours un petit peu le pigeon de base qui raque. Hein, la réponse, elle est là. Elle est un peu facile, cette réponse. Elle est assez vraie. Et ça donne d'autant plus de décisions possibles pour ce pigeon de base qui raque finalement ce contribuable, ce consommateur que nous sommes. Donc c'est un problème, c'est un sujet qui nous intéresse. Mais il nous semble vraiment évident qu'il y a des choses qui ont toujours été gratuites et qui doivent le demeurer, et qui ne peuvent que le demeurer, et puis d'autres qui ont toujours été payantes et qui ne peuvent que le demeurer. Or, il y a un certain nombre d'expériences dans le monde, en Europe, en France, concernant particulièrement, on va le voir, les transports, qui ont un gros. Dans certaines villes, on a réussi à rendre l'eau gratuite, ou au moins beaucoup moins chère. On va d'abord s'intéresser au transport en commun. C'est ce qui s'est passé à Aubagne, cette ville à côté de Marseille, près de 100 000 habitants, où cette expérience a été mise en place. Alors évidemment, d'abord on se dit, mais comment c'est financé? Puis après, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait aux gens? Monter dans un bus, c'est gratuit. Alors, qu'est-ce qui se passe plus souvent? Est-ce qu'on va faire moins de vélo si on prend le bus? On va moins marcher si on prend le bus? Ah, alors c'est mauvais pour l'environnement. Il y a des tas d'effets auxquels on ne songe pas quand on s'enthousiasme pour un. Et puis surtout, bien sûr, qui paye? Quelle relation? Et puis qu'est-ce qu'on fait des salariés, des chauffeurs, des contrôleurs, tout ce personnel, et les caissiers? Les comptables qui étaient là lorsque c'était sont des noms qui nous viennent à l'esprit et auxquels on va essayer de répondre avec cette idée, bien sûr, que fondamentalement il y a quelque chose là de quotidien, d'ordinaire et d'éminemment politique. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas, si j'y suis, liberté, égalité, gratuité.
J'ai visité Disneyland, Disney World et le Stroumpfland. J'aime bien tous ces endroits où il y a du peuple et de la joie. Mais en fait, je le remarque et je le dis sans prétention. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc
si telle est ton ambition.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc
si tu en prends la décision.
Des manèges, il n'y a que ça dans les rues autour de toi. Le bus, le train, l'escalator, du métro, des mégastores, des spectacles. Il y en a plein, la vie de tes concitoyens. Il suffit d'un nouveau produit, une nouvelle invention. Ta ville devient ce parc, au milieu d'une attraction.
Ma ville est le plus beau parc,
sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc, si telle est ton ambition.
Ma ville est le plus beau parc,
sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc, si tu en prends la décision.
Tous les jours faut l'embellir, c'est le plus fun des loisirs. Inventer et entreprendre, proposer, bâtir, défendre. Tous les jours faut que tu oses repeindre ta ville en rose. Ne laisse pas les énarques imposer leurs solutions. Avec tous rêves, ce parc est passe aux réalisations.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions.
Ta ville sera ce parc si tu en prends la décision.
Des aventures tu en vivras, à réalité rama. Si tu cherches à unir les gens contre le pouvoir de l'argent, les riches et les promoteurs te traiteront d'agitateurs. Puis un jour les flics t'embarquent, tu chanteras en détention. Vous pourrez pas parquer mon parc, ni zapper sa population.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc
si telle est ton ambition.
Ma ville est le plus beau parc,
sa vie pleine d'attractions.
Ta ville sera ce parc si tu en prends la décision.
Pays d'Aubagne et de l'Étoile, liberté, égalité, gratuité. Bus gratuit. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chauffeur donc de bus hein, ici?
Oui.
Alors comment ça se passe? Est-ce que ça a changé depuis 3 ans, depuis la gratuité des transports en commun ici à Aubagne?
Beaucoup plus de fréquentation et ma foi, pas de soucis particuliers. Une caisse à moins à gérer. Les jeunes, on arrive à discuter, oui. On fait un peu assistante sociale aussi. Ils discutent pas mal, ils nous racontent un peu leur vie. Tu vois. C'est plus intéressant, oui, que de faire le gendarme à surveiller s'ils ont tamponné les tickets ou pris des tickets. Quoi. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de monde les jours de marché ou même en temps normal, hein, les sorties scolaires. Toute la journée, il y a du monde. Quoi. Alors qu'avant, on faisait des voyages Il y a pratiquement une personne. À partir du moment où c'est gratuit, tout le monde ne vient.
Ça fait combien de temps que vous faites ce métier?
Ça va faire 20 ans. Ici, ça va faire 9 ans. Et il n'y a pas de souci, hein.
Il n'y a pas une perte de respect du fait que ça devient gratuit?
Non, il n'y a pas d'incivilité. Il faut juste après respecter les règles, quoi. Respecter le fait de prendre aux arrêts. On s'arrête aux arrêts, c'est tout. Revenir en arrière, ce serait difficile. Hein. À partir du moment où les gens ont connu la gratuité, revenir à... c'est difficile, je pense.
Et ça vous plaît comme métier?
Ah oui. La conduite et puis les personnes. Hein. C'est tout. Hein.
Merci, bonne route.
Merci.
Alors, Magali Giovannangeli,
oui.
Vous êtes présidente de la communauté d'agglomération Pays de Rennes de l'école et proposez les transports gratuits.
Oui, ça fait 3 ans, puisque au mois de mai, nous fêterons le 4e anniversaire. C'est une mesure qui a facilité la mobilité au sein de la communauté d'agglo, et les croisements et les... Il y a quelques aubaniers qui sont allés découvrir des villages de l'agglo, des gens des villages de l'agglo qui se connectent entre eux. Donc vraiment une réappropriation de l'espace public qui est assez extraordinaire, et puis surtout une mixité générationnelle et sociale avec un rapport de la gratuité avec les jeunes qui est exceptionnel. Nous avons une commune d'agglomération de 104 000 habitants, une commune d'Aubagne qui est à 46 000 à peu près. Il y a une question qui n'était pas forcément apparue comme ça, en tout cas pas aussi majoritairement, c'est celle du droit à la mobilité, du droit au déplacement plutôt, et que du coup, on l'a vérifié. C'est en 2007, nous étions dans la préparation de la campagne électorale. C'était le moment où Nicolas Sarkozy venait d'être élu et qu'on connaît les valeurs qu'il défend. C'est qu'il faut trouver des élections municipales qui tournent le dos à cette politique de l'argent roi, à cette impasse-là, quelque chose qui remette de l'égalité et qui, en même temps, est une mesure environnementale, puisqu'on était, au moment où on réorganisait notre réseau de bus, dans une réflexion sur l'utilisation un peu plus importante des transports en commun. Et c'est comme ça que, dans notre campagne électorale pour les municipales, nous avons inclus la gratuité. C'est des fêlés, en tout cas, peut-être un peu, dans un premier temps de la campagne. Ils le disent, mais ils ne le feront pas. Et puis, lorsque nous avons lancé la gratuité, ça a été un moment assez extraordinaire à vivre, vraiment.
Message de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Mais alors, qui paye? Comme l'usager n'achète plus de tickets, il faut bien trouver de l'argent pour compenser. À Aubagne, il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts. Ce ne sont pas les habitants qui ont mis la main dans la poche.
Bonjour, ça va ?
Dans sa société de distribution de fruits et légumes, Gérard Canavez emploie 200 personnes.
Et aussi dans les ports du Nord. Je vais vous montrer des bananes conditionnées.
Chaque année, il paye ce que l'on appelle le versement transport. Une taxe qui sert à financer des transports publics et qui varie selon le nombre de salariés de l'entreprise et le nombre d'habitants de la commune où la société est implantée. Pour payer la gratuité, cette taxe a très fortement jusqu'à autorisé par la loi.
Alors, cette gratuité pour l'entreprise, elle a un coût et elle a un coût très élevé. Je vous montre tout donner 2 chiffres. En 2008, nous avions un prélèvement de transport de 29 000 euros. En 2010, nous avons un prélèvement de transport de 86 000 euros. C'est très lourd.
C'est très lourd, trop de charges. Évidemment, c'est la chanson des entreprises et des entrepreneurs. Que répond Magali Giovannangeli?
La mesure a été pensée parce que nous avons une disposition en France qui est d'ailleurs décriée aujourd'hui par les patrons, et il faut être vigilant pour qu'elle se maintienne, qui est le versement transport, que les entreprises de plus de 9 salariés versent à la collectivité pour améliorer les transports dans la collectivité. Et il se trouve que notre versement transport était jusqu'à avant la passage de 0,6% de la masse salariale. que versaient donc les entreprises. Ça fait pas beaucoup, hein. Chez nous, ça représente même pas 10% des entreprises. Et en passant à 100 000 habitants, nous avons passé le VT, donc le versement transport, à 1,05. Ce qui fait que le différentiel couvrait très largement la billetterie payée par les gens. Et que donc, on pénalisait personne et on pouvait abonder financièrement la gratuité par ce versement transport, qui, en plus, avec l'existence prochaine du tram, l'a fait passer à 1,8. Donc, on l'a multiplié par 3, ce versement transport. Et nous aurons donc, lorsque le tram sera sur les rails, un tram gratuit et un tram-train gratuit.
Et la fréquentation, alors, elle a évolué? Comment elle s'est développée?
Il y a quelques semaines de ça, nous étions à plus 170% de fréquentation. Ce qui veut dire que les gens utilisent les bus. Lorsqu'on a tant de voyageurs au démarrage de la gratuité qui coûtent à la collectivité 4 euros, mais qu'on aussi plus de voyageurs sans augmenter le coût de la collectivité, forcément on réduit le coût par voyageur et aujourd'hui on en est à 2 euros par voyageur. Ce qui veut dire que sur l'efficacité économique, quand on regarde l'économie autrement que par le biais de la finance et des profits, on se rend compte qu'il y a une réelle efficacité économique.
Vous êtes contrôleur, c'est ça?
Oui, c'est ça. Contrôleur aux autobus au bagné. Je suis salarié depuis à peu près 15 ans.
Donc vous avez vécu la transition du payant au gratuit?
Exactement.
Vous vérifiez plus les tickets, c'est ça?
Exactement, oui. Donc les gens sont plus détendus, nous sourient beaucoup plus, on a moins de problèmes. Bon, de temps en temps, quelques petites dégradations, mais sinon, ça se passe super bien.
Mais vous êtes au chômage, les contrôleurs, maintenant, ou pas?
Non, pas du tout. On tourne un petit peu sur l'ensemble du réseau, on informe, on oriente la clientèle, on effectue tout ce qui est régulation, on intervient un peu sur les accidents, enfin, tous les incidents qu'il peut y avoir sur l'ensemble du réseau. On a 3 réseaux en parallèle. On a le réseau de Gardagne, La Ciotat, plus Aubagne.
D'accord, parce que donc les bus de l'Aglo, hein, du pays d'Aubagne et de l'Étoile, sont une délégation de services publics concédée à Vallée.
Après tout, c'est banal de boire de l'eau du robinet, de prendre une douche, ou de descendre les poubelles. C'est banal de prendre le bus, de n'avoir ni trop chaud ni trop froid. Mais ce n'est pas banal, c'est de répondre aux besoins essentiels de millions de personnes dans le monde. Et nous y répondons chaque jour pour des villes plus respectueuses de l'environnement.
C'était un message du groupe Veolia.
Ah oui, ben oui, c'est joli tout ça, votre gratuité, tout ça. Mais au bout du compte, elle engraisse les actionnaires de Veolia.
Voilà, cette phrase-là, ils ont dû l'entendre assez souvent. Hier, l'histoire des bus gratuits d'Aubagne. Ah, comment se défendent-ils? Que répondent-ils, les malins qui défendent ce projet? Vous avez vu, c'est idyllique. Et alors, on a rencontré l'un des auteurs d'un bouquin passionnant sur ce sujet qui s'intitule « Liberté, égalité, gratuité, une expérience sociale à Aubagne ». Pour se souvenir du mot social, et qui s'appelle Jean-Louis Sagot-Duvauroux.
Alors, Jean-Louis Sagot-Duvauroux, ce qui est particulier à Aubagne, c'est que c'est toujours une compagnie, une multinationale, Veolia, hein, qui s'occupe du transport.
Oui, il y avait une DSP, délégation de services publics, qui remontait à très longtemps, qui concernait une entreprise locale d'abord, et puis comme toutes les entreprises ou beaucoup d'entreprises locales, elle a été rachetée, il y a à nouveau des grandes transactions autour de ces questions. Effectivement, ça peut paraître comme étant un paradoxe, mais moi je trouve que c'est une situation très intéressante, parce que une collectivité territoriale de 100 000 habitants ne peut pas nationaliser Veolia. Elle n'est pas forcément non plus bien outillée pour faire le travail que Veolia sait faire. Par contre, elle peut, en aval, décrété la gratuité. Et donc, on sort du marché de sortirait du marché capitaliste des entreprises, mais parce que l'accès à ce bien qui est le déplacement devient gratuit et enlevé au marché. Ensuite, je pense que c'est un très bon levier pour poser la question, toute bête, mais au fond, puisque c'est un service gratuit payé avec l'argent du contribuable, avec l'argent de l'argent public, pourquoi est-ce que ça profiterait aux actionnaires de Veolia? Et je pense que là, on est beaucoup plus fort pour faire éventuellement une nationalisation, mais ça ne se passe pas au niveau local, ça se passe au niveau national ou bien au niveau même européen, par exemple. Hein. Ce que nous dit l'expérience de l'agglomération d'Aubagne et toutes les expériences de gratuité qui se font ailleurs, c'est que le marché qu'on nous présente comme l'unique possibilité de faire efficacement fonctionner la société et de répartir le plus efficacement les biens produits par notre travail, ben non, c'est pas vrai, la gratuité, tout à fait, et très efficacement faire la même chose. Il y a un vieux slogan libertaire et communiste qui disait de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Hein. Le marché nous dit à chacun selon ce qu'il a dans la poche. C'est ça, moi, qui m'a fait travailler sur la gratuité. Comment dépasser le système qu'on nous dit indépassable sans passer par la case tyrannie, comme on l'a vu dans l'expérience soviétique. Avec la gratuité, ça fonctionne. Alors certes, c'est partiel, ça a tout cas besoin de la vie, etc. Néanmoins, c'est possible. Et quand on se rend compte que c'est possible, on se dit peut-être que c'est davantage possible.
Pays d'Aubagne et de l'Étoile, liberté, égalité, gratuité. Aubagne, Auriol, Belsodène, Cadolive, Cuges-les-Pins, Bouilladis, La Destrousse, Saint-Zacharie.
Dis-moi, je suis le seul pour qui tout va trop vite. Dis-moi, je suis le seul qui ne comprenne rien à la musique. Dis-moi, je suis le seul qui vit avec rien. Moi, je suis le seul qui écoute les oiseaux et c'est bien. Moi, je suis le seul. Dis-moi, je suis le seul.
Alors, comment on fait pour répondre à cette magnifique formule de chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins? Magnifique, magnifique. Et comme on vient de le dire, comment faire pour éviter la tyrannie? À chaque fois qu'on évoque ça, on dit « Oh loulou, mais vous souvenez ?» Alors donc, on reste avec notre truc, ben voilà, selon ce que chacun a dans sa poche, et puis que le plus riche gagne et marche sur la gueule de l'autre. Voilà, en gros, c'est ça le système. Alors là, ils essayent autre chose à Aubagne. Ils essayent, c'est une expérience. Ils disent bien, c'est une expérience sociale qui est convaincante. Alors, bien sûr, parmi les réponses, il y a oui, d'accord, mais enfin, ce n'est pas partout. Et là, ça marche parce que pour telle et telle raison, mais ça ne peut pas s'appliquer partout. Il y a d'autres expériences en France hein, qui sont concluantes et qui ne sont pas forcément, qui ne proviennent pas des mêmes idées sociales, des idées politiques que celles de la mairie d'Aubagne et qui marchent aussi fort bien. Mais enfin, tout ça, ça mérite quand même des réflexions peut-être un peu plus vastes, un peu plus profondes. On s'est tourné vers Roger Martelly. Roger Martelly. Membre du Parti communiste, est un historien du communisme, et voilà son point de vue sur la gratuité et le service public.
Alors Roger Martelly, les services publics et leur éventuelle gratuité, ça tombe pas du ciel?
Non, ça ne tombe pas du ciel. La gratuité, c'est une vieille lutte qui remonte très très loin dans le temps. Hein. La lutte des paysans anglais pour maintenir les biens communs, la lutte des paysans français. français pour maintenir les communaux et donc le soustraire à la confiscation privée, les combats sur les vols de bois en Allemagne au XIXe siècle, c'est un très vieux combat. Il se trouve que au XIXe siècle, alors même que le capitalisme marchand devient le système dominant, en même temps, par une sorte de paradoxe, se développent des plages de gratuité. C'est la gratuité, par exemple, dans le domaine d'abord de l'école, etc. Gratuité dans le domaine de l'assurance maladie, de la santé plus généralement. Donc il y a des plages de gratuité. Et ce mouvement vers la gratuité a été conforté au XXe siècle par l'émergence d'un secteur public, c'est-à-dire d'un secteur qui, officiellement dégagé de l'obligation de rentabilité marchande, avait pour fonction principale la satisfaction d'un certain nombre de besoins sociaux individuels. Et donc pendant toute une période, des plages de gratuité, dans une série d'hommes, femmes, individus et services publics, ont fonctionné de pair. Et le problème, c'est que depuis maintenant une quarantaine d'années, hein, pratiquement, nous nous trouvons dans un mouvement inverse. D'une part, le service public est en train de reculer dans tous les domaines, sous plusieurs formes. L'alignement de ces modes de gestion sur les logiques de rentabilité privative, les modèles managériaux qui sont appliqués dans le service public, et purement et simplement le recul des services publics en tant que tels et le passage au privé. Et dans le même temps, l'idée de la gratuité a connu un véritable recul. Au niveau des services publics, l'usager tend de plus en plus à devenir client et plus généralement, on tend à imposer l'idée que le paiement d'une prestation est la seule manière de responsabiliser les individus et donc de parvenir à de mythiques équilibres financiers. Et donc, que nous voyons, c'est un recul tout à la fois de la notion de gratuité avec l'essor de la marchandisation, l'universalisation de la marchandisation dans un cadre international et le recul des services publics. Et le problème, c'est que cette évolution est une évolution qui, évidemment, a des conséquences dramatiques pour les individus. En fait, je pense que nous sommes devant un véritable choix de société. On devrait considérer aujourd'hui que toute une série de dépenses dans le domaine de l'éducation, de la santé, des transports, de l'environnement, etc., ne relèvent pas, ne devraient pas être considérées comme des coûts, mais devraient être considérées comme, on pourrait pratiquement dire, si on voulait employer un langage comptable, des investissements. Et que de ce fait, rendre possible la satisfaction de besoins fondamentaux dans ces domaines-là devrait être considérée comme une priorité sociale stratégique. De savoir comment doit-on assumer les coûts par le marché et par la prestation marchande, donc par le fait que c'est à l'utilisateur de financer la fourniture de ces prestations, ou doit-on le financer par l'impôt qui permet de raisonner à l'échelle de la société sur ce que sont les véritables besoins, ce que sont les ressources disponibles et la manière d'allouer les ressources disponibles aux endroits où on peut considérer que c'est nécessaire. Et donc, je pense que la gratuité devrait être pensée comme un moment dans un processus global qui est un processus, à mon avis, de reconquête de l'espace public, appuyé en particulier sur un secteur public, mais couplé à une véritable démocratisation. Ça permettrait peut-être de réfléchir à une question qui ne fait jamais l'objet de délibération démocratique. Depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est à peu près 300 milliards qui ont passé par le jeu des mécanismes économiques, en gros, pour le dire rapidement, du capital vers le travail. Ces sommes considérables qui pourraient être utilisées, au fond, à la satisfaction de besoins fondamentaux et à développer des plages de gratuité conséquentes. Il ne s'agit pas de dire tout doit être gratuit universellement, mais il y a d'ores et déjà des éléments qui doivent revenir pleinement à la gratuité. La santé, l'éducation, la culture doivent aller vers la gratuité par l'intermédiaire de l'impôt, par le développement de la prestation marchande, c'est-à-dire par le recul de la gratuité.
Alors là, il y a une fontaine là dans ce jardin.
Une fontaine bleue en fonte, de manufacture ancienne, mais pour autant là depuis un an. Nous avons comme ça réimplanter une vingtaine de points publics. Il y a la gratuité à la maison et puis il y a la gratuité dans les espaces publics.
Alors voilà, on est passé du transport gratuit à Aubagne. Encore une fois, je le répète, il y a d'autres villes qui pratiquent cette expérience, qui font cette expérience. Et là, maintenant, c'est l'eau. Je voudrais revenir un petit peu sur ce que vient de dire Roger Martelly. Évidemment, c'est un intello, c'est assez tassé ce qu'il vient de nous dire. Mais c'est bel et bien ça, quoi. C'est vraiment les chantiers. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir ce que vous voulez, ce que nous souhaitons. C'est les domaines qui doivent rester gratuits, qui doivent être considérés comme des droits gratuits pour tous, l'éducation, la santé, la culture, les transports, en l'occurrence, ou bien on considère que bah non, c'est selon les moyens, c'est-à-dire l'éducation, bah, il faut payer, la santé, il faut payer, la culture, il faut payer, etc. Voilà, c'est des choix, c'est des vieilles réflexions que nos ancêtres ont fait, que nos grands-parents ont fait, avaient réussi à régler, à mettre une muselière au monstre capitaliste durant ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Et depuis une trentaine, quarantaine d'années, tout ça, on assiste au recul de la place des services publics, du gratuit, et c'est un sujet actuel. Il n'y a rien d'irréversible là-dedans. Tout ça, ce sont des idées, ce sont des convictions, ce sont peut-être même des croyances, pourquoi pas, mais qui nous concernent et qui nous regardent tous, et qui regardent par exemple quelqu'un avec qui nous nous trouvons, qui s'appelle Gabriel Amar, qui est le président de la communauté d'agglomération Les Lacs de l'Essonne, et qui, avec son équipe, a remis en régie publique l'eau de Viry-Châtillon. On va retrouver Veolia des fois que vous soyez en manque.
Les gens ont juste à tourner la manivelle et...
Et c'est des points d'eau qui avaient disparu. Vous êtes,
oui,
né ici, hein?
J'en ai connu une ou deux quand j'étais petit. Une sur mon chemin pour aller à l'école Eslangon. Et elle a été supprimée. Elles ont été comme ça, sans cesse supprimées. Ça n'allait pas avec la logique des marchands. Vous voyez, combien d'années de gestion privée de l'eau ici, à Viry-Châtillon?
Oh,
depuis 1931. Et nous avons libéré l'eau potable des marchés au 1er janvier 2011. Ça met du temps, hein?
C'est gravé dans la fonte.
Voilà. On a gravé, enfin on a moulé dans la fonte le nom de la régie. Eau des Lacs de l'Essonne. La régie. Et ce qui intéresse dans l'expérience des Lacs de l'Essonne, c'est pas seulement être passé de la gestion privée à la gestion publique. Ce qui intéresse à cette étape, c'est que nous sommes les seuls à avoir allié différence de conditions d'accès entre usage professionnel et usage domestique, progressivité pour avoir une tarification écologique et gratuité des premiers mètres cubes indispensables à la survie.
Vous ne nous voyez peut-être pas, mais Veolia Environnement, ce sont 300 000 personnes qui gèrent l'eau, l'énergie, les transports et la propreté. Veolia, l'environnement est un défi industriel.
Je fais un reportage sur l'eau.
Non,
vous savez, parce qu'on m'a dit qu'il y avait une politique particulière de l'eau ici. Mais il y a une gestion particulière de l'eau ici à Viry-Châtillon ou pas?
Bah oui, c'est passé dans le service public.
Bon, ni plus ni moins, c'est pas pire, pas mieux qu'avant. Voilà.
Mais dans l'idée, vous en pensez quoi?
Ah, je préfère. Je préfère ça à la sous-traitance. Surtout, je sais comment on est traité dans la sous-traitance, donc il vaut mieux que ce soit une régie communale. Et... Je suis en accord avec cette.
J'ai une question sur la gestion de l'eau ici. On m'a dit que c'était particulier. Je fais un reportage sur la gestion de l'eau.
C'est formidable, la Viry. On paye moins cher et on a repassé en régie publique. Donc c'est formidable.
Mais il y a une notion de gratuité aussi, non? C'est ça? Il y a les premiers litres qui sont gratuits?
Oui, absolument. Ouais. Dans l'esprit de notion que sans eau, on ne peut pas vivre, quoi. Tout simplement. Donc je pense que l'idée est franchement excellente. crois que c'est d'ailleurs en train de se développer au plan national. Donc voilà, bon, c'est parfait. Je crois que paye forcément moins cher. C'est à étendre, je pense. Hein, c'est voilà. Et puis ils ont un service d'entretien derrière. Moi, je vais arracher moi. Ils vont faire les travaux, quoi, dans peu de temps. Les raccordements qui vont être faits. Enfin bon, c'est quand même tout ça à la charge des lacs de l'Essonne. Donc c'est formidable.
C'est très bien l'eau comme ça.
C'est très bien comme ça maintenant.
Ouais, je bois de l'eau du robinet qu'avant je ne buvais pas. Et je trouve que l'eau du robinet est légère. Et puis je me suis aperçu. Voilà ce que j'ai constaté, monsieur. Oui, ouais, parce qu'avant, elle sentait, je ne sais pas, des fois elle avait une mauvaise odeur. Un mauvais goût, je ne la trouvais pas bonne.
Et du coup, vous buviez de l'eau en bouteille?
Absolument, oui.
Et là, vous êtes revenu à la consommation de l'eau du robinet.
Absolument.
Bon, ben, je vous remercie, en tout cas.
Je vous en prie, monsieur.
Au revoir.
Ton ami dans les bureaux, bien planqué de tes ministères. J'ai une petite chanson vénère que j'ai écrite rien que pour toi, toi qui veux me faire payer la terre. Alors qu'elle ne t'appartient pas, ne m'as-tu rien à me vendre l'air en prétextant qu'il est à toi. Le jour viendra où les gens se réveilleront. Ce jour-là, ils te font bouffer ton pognon. Toi qui as pleuré les mers, qui as souillé tous les ruisseaux. Aujourd'hui tu viens vendre de l'eau parce que tu la fous dans les tuyaux. Si les tuyaux sont bien à toi, t'as pas inventé les rivières. Et cette eau elle t'appartient pas, tu me la frappes à l'envers. Toi qui te sers de mon impôt afin d'organiser des guerres, qui envoie les gosses au tombeau, qui te l'arme les guerres, mon ami dans les bureaux, bien planqué de tes ministères. Si j'étais toi, je ferais pas le beau et je surveillerais mes arrières. Je raserais les murs dans la rue, je me méfierais de chaque inconnu et je dégusterais chaque bière. Des fois que ce soit la dernière, le jour viendra où les salauds, nos respectables responsables, et seront jugés coupables, coupables d'avoir bousillé la terre et nous de les avoir laissés faire.
Les communes de Grigny et de Viry-Châtillon ont souhaité transférer à la communauté d'agglomération la gestion de l'eau potable, dans le souci de construire et de bâtir un projet d'intérêt général, bien sûr, d'intérêt commun. Il y avait aussi là une opportunité juridique qui était d'arracher la commune de Viry-Châtillon à la gestion. Veolia, qui est le délégataire du syndicat des eaux d'Île-de-France. Le syndicat des eaux d'Île-de-France ayant décidé il y a 3 ans maintenant de repartir pour 12 ans dans une gestion privée, nous avons, préféré étudier l'hypothèse de la gestion publique. Et en construisant ce projet de gestion publique, nous nous sommes rendus compte que toujours, en comptabilité publique, la gestion de ce projet, et au prix coûtant, on est toujours 25% moins cher en moyenne dans tout le pays que la gestion privée. Ces 25% en moyenne, je défends l'idée que on peut les consacrer à construire un projet qui tient compte de la réalité des usages de l'eau dans un territoire donné. Et chez nous, quand on voit que 90% de l'eau est consommée par les familles et 10% par les entreprises et les commerces, on se dit, tiens, si on met 20 centimes de plus au mètre cube sur l'eau consommée par les entreprises, est-ce qu'on arrive à faire des conditions particulières à tout le monde pour l'usage qui est indispensable pour ne pas mourir de soif? Et puis après, pour les usages indispensables à la vie, le moins cher possible. Et puis après, bon, bah, celui qui veut laisser tourner, le rotage automatique, qui prend des piscines 3 fois par an, celui-là, bah, il doit comprendre qu'il paye plus cher. Parce que c'est de l'eau de confort, voire même de luxe. Ces mètres cubes-là, ils n'ont pas été accessibles dans les mêmes conditions que l'eau de la cuisine et de la salle de bain.
Alors, vous parlez d'arracher la gestion de l'eau au marché. C'est vraiment de haute lutte que vous avez réussi.
Écoutez, en France, il y a un principe constitutionnel qui est la libre administration des collectivités. Donc moi, autre libre administration des collectivités, dès lors que les électeurs ont tranché, je fais. Il y en a marre du grand écart, de la schizophrénie en politique. On dit des trucs le temps des élections, puis on est au pouvoir, on fait l'inverse. Donc, je suis mandaté par les électeurs pour faire une régie publique de l'eau. Puis, nous avons été devant les usagers de l'eau pour leur demander ce qu'ils en pensaient. Mais sur pièce, pas pour les convaincre de force que l'eau est un bien commun de l'humanité et qu'il doit être... d'aucune manière une marchandise, c'est ce que je pense. Mais nous avons été plus loin. Parce que quand vous mettez tout sur la place publique, c'est-à-dire le rapport des multinationales, les comptes de résultats des multinationales, et que vous mettez en face le compte d'exploitation prévisionnel sur 5 ans pour une future régie publique de l'eau, et c'est là que vous vous rendez compte qu'il y a des différences. Les uns versent des dividendes, les autres n'en versent jamais. Les autres ont un résultat de fin d'année qu'on ne retrouve pas dans le budget de l'année d'après, alors que les autres, en comptabilité publique et en gestion publique, reprennent toujours le résultat de fin d'année. Et c'est la première recette de l'année d'après. Donc chaque centime qui a été payé par l'usager à Viry-Châtillon n'est jamais perdu pour le service de l'eau. Parce qu'en France, l'eau paye l'eau. C'est les uns qui payent la facture de l'eau dans notre beau pays. C'est la facture de l'usager. Et aujourd'hui, je dis que tout le temps, quand ce n'est pas de la gestion publique, et particulièrement pas de la gestion publique en régie, il y a forcément des euros qui sont payés par la facture de l'usager qui servent à autre chose qu'au service de l'eau.
Égalité, gratuité. Vous vous souvenez quand il fallait payer? C'était un reportage d'Antoine Chao. Merci à Magali Giovannangeli, pardon, j'étais sûr de me planter. Jean-Louis Sago-Duvourou, leur livre dont je rappelle le titre Voyageur, Santiquet, Liberté, Égalité, Gratuité, une expérience sociale au bagne, est disponible aux éditions Le Diable Vauvert. Merci. Gabriel Amar. Lui, son bouquin, c'est « L'eau n'a pas de prix, vive la régie publique » chez Bruno Le Prince, son éditeur. Et puis, je vous rappelle, pour contribuer à la caisse de grève des salariés de PSA qui sont quand même en grève depuis le 16 janvier, vous pouvez vous rendre sur leur site cgt-psa-aulnay.fr. C'est la caisse de grève. À la technique aujourd'hui, Pierre Monsigny, Gaël Braouis, c'est Lucien. Cette émission préparée avec Grégory Salomonovitch et Marion Dupas. Attendez à présent vos messages sur le répondeur de la base CGSU au 01 56 40 37 37.
Attention, vendredi dernier, le jackpot Euromillions n'a pas été gagné. Ce mardi, il atteindra près de 59 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement.
Euromillions, et si votre vie devenait infiniment plus riche? Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.
Sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour la basse. J'y suis les infos. Delphine Simon, salut!
François Hollande confirme l'enlèvement de 7 touristes français ce matin au nord du Cameroun, près d'une réserve naturelle. Il s'agit de 3 adultes et de 4 enfants. Ils ont été enlevés dans un petit village à une dizaine de kilomètres du Nigeria. Leurs ravisseurs sont des hommes armés circulant à... appartenant, selon François Hollande, à un groupe terroriste nigérian. Ils les ont forcés à les suivre en territoire nigérian où la secte Boko Haram, ou du moins un groupuscule lié à cette secte, détient déjà un otage français depuis décembre dernier. C'est la première fois qu'on signale des enlèvements d'étrangers dans cette région. Le Suisse Nestlé, rattrapé à son tour par la fraude à la viande de cheval. Le numéro 1 mondial de l'agroalimentaire vient d'annoncer qu'il retire de la vente des cheval en France et au Portugal. Il n'y aura pas de révision de la croissance avant fin mars. Paris ménage ses alliés européens. François Hollande, qui se trouve justement en Grèce, confirme qu'on n'atteindra pas 0,8% de croissance cette année. Laurent Fabius parlait, lui, de 0,2 à 0,3% ce matin. Une prévision optimiste optimiste, selon Laurence Parisot, la présidente du MEDEF. Le patron de Novartis, privé de parachute doré, le groupe pharmaceutique suisse a décidé de faire cette présence. Qu'elle envisageait de céder au président sortant, Daniel Vasella, une décision prise sous la pression des actionnaires et de l'opinion suisse. La colère grandit concernant les émoluments records des chefs d'entreprise. À Genève, Laurent Mossu.
Sur la pression de la rue, le patron de Novartis, Daniel Vasella, renonce à une indemnité de départ de 50 millions d'euros. Il doit quitter son fauteuil en fin de semaine à l'issue d'une assemblée générale qui s'annonçait houleuse. Le contrat de Daniel Vasella prévoit le versement de 72 millions de francs suisses au titre d'une clause de non-concurrence qui l'empêchait de rejoindre un autre laboratoire pharmaceutique. Le parachute doré accordé à l'un des patrons les mieux rémunérés du pays a fait scandale. Il intervient alors que les citoyens suisses seront appelés le 3 mars prochain à se prononcer précisément par référendum sur les rémunérations abusives. Il s'agit d'enlever au conseil d'administration des sociétés en bourse la prérogative de fixer les rémunérations au profit de l'Assemblée générale des actionnaires. Le golden handshake promis à Vasella apporte de l'eau au moulin des tenants d'un projet de modération des salaires en passe de remporter la victoire. À Genève, Laurent Mossu, RFI pour France Inter.
Est-ce le hold-up du siècle à Bruxelles? Des braqueurs ont mis la main hier soir à l'aéroport de Bruxelles sur des diamants à destination de Zurich. Le montant du butin varie selon les sources entre plusieurs dizaines et plusieurs centaines de millions d'euros. Enfin, la SNCF ouvre aujourd'hui les réservations pour ces nouveaux TGV low cost, les TGV Ouigo, qui relieront dans quelques semaines la région parisienne et le sud-est. Prix des billets à partir de 10 euros. Ils sont censés attirer de nouveaux clients, des familles ou des groupes qui habitent hors de Paris et préfèrent prendre leur voiture plutôt que le train.
Jeudi soir, à partir de minuit, une nuit exceptionnelle sur France Inter.
C'est qu'on n'a jamais le temps de rien. Si juste on pouvait me confier les clés de la radio, une nuit.
Une nuit entière? Vous êtes gourmand, Vincent.
Une nuit entière, vous et moi, tous les deux, on fait ce qu'on veut.
Vincent Lindon et Pascal Clark passent la nuit ensemble sur France Inter, de minuit à 5h.
Qu'est-ce qu'on risque?
Rien.
France Inter.
La voix est libre.
16h04, bon après-midi, et vous êtes en compagnie de Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour, Vincent, pour la tête.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous, j'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Augustin Dumay, violoniste, chef d'orchestre. Bonjour Augustin.
Bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver.
Oh, bah oui, ça fait un peu trop longtemps quand même, mais vous êtes partout dans le monde, c'est ça l'histoire? Vous êtes au Japon?
Je suis un peu trop occupé un peu partout, ce qui m'empêche de retrouver assez régulièrement le public parisien, mais je suis très heureux de vous retrouver. Des Champs-Élysées.
Alors voilà, c'est un beau programme avec Ludwig van Beethoven, la sonate Le Printemps qui j'espère va être une forme de prémonition, va nous amener le beau temps en plus de ce chef-d'œuvre adorable, la sonate de Richard Strauss qu'on connaît beaucoup moins, et puis la fameuse sonate de César Franck qui est peut-être cette fameuse aussi sonate de Vinteuil de Proust, on ne sait pas. Enfin, il y a discussion là-dessus.
Vous avez... Oui, il y a discussion sur la sonate au printemps, il y a discussion sur la sonate de Vinteuil, oui. Parce que certains musicologues la vraie sonate au printemps et la dernière sonate de Beethoven, la dixième.
Oui, bon,
vous savez, à
pas.
L'époque, les éditeurs donnaient des noms selon leur caprice du jour. Alors, la sonate de Vinteuil, pour Proust, c'est plutôt la sonate de Camille Saint-Saëns.
On dit ça aussi.
Voilà, mais de toute façon, ce sont deux œuvres admirables.
Voilà, et puis un disque vient de paraître, donc vous avez gravé avec Louis Lortie, qui est un pianiste québécois, fameux, hein, qui a vraiment une très très belle carrière aussi. Et Pourquoi Strauss? Parce que vraiment, ça n'est pas la plus commune, on va dire. On sait que Yascha Heifetz, par exemple, l'aimait beaucoup, voulait l'imposer dans pas mal d'endroits.
Je l'ai joué beaucoup. C'est une œuvre de jeunesse de Richard Strauss, mais qui est infiniment touchante par sa générosité, l'amour qu'elle exprime. Il devait être très amoureux quand il l'a écrit. Et c'est une sonate extrêmement difficile, aussi bien pour le piano que pour le violon. Des idées absolument qui vivent absolument partout dans cette sonate. C'est toujours un grand plaisir et je dois dire que je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle n'est pas plus jouée, parce que chaque fois qu'on la joue, et on l'a jouée d'ailleurs avec Louis Lortie au Canada cet été, un petit peu partout dans le monde, à Londres, etc. Et c'est chaque fois un grand succès public. Donc il faut la rejouer. Il y a comme ça des œuvres qui sont abandonnées pendant
En fait, c'était fait gifler en Israël pour l'avoir apporté. En Israël, on considère que c'est une sonate écrite par un Allemand. À l'époque, c'était mal porté. Maintenant,
absolument.
Ça va très bien. Maintenant.
Mais vous savez que Daniel Barenboim, que vous avez reçu ici, a été un de ceux qui a justement eu le courage extraordinaire de défendre la musique de Richard Strauss à l'endroit où...
Et de Wagner.
Et de Wagner en Israël.
Voilà. Allez, quoi qu'il en soit, Allegro Manon Troppo de cette sonate pour violon et piano de Richard Strauss.
Thank you.